Cher auditeur, cet épisode a été enregistré en néerlandais. L'interview a été traduite et doublée avec une voix générée par l'intelligence artificielle, afin de conserver au mieux l'authenticité de la voix originale. Bonne écoute. Bienvenue dans notre podcast sur l'Expo 58. Dans cet épisode aussi, nous vous ramenons en 1958. Un journal coûtait alors 2 francs, la NASA voyait le jour et le hula hoop en plastique prenait le monde d'assaut. Imaginez que nous sommes en 1958. Vous prenez le train, votre voiture ou, comme notre premier invité, votre vélo et vous vous rendez au cœur de l'Europe. Le but de votre voyage ? L'Expo universelle de Bruxelles, également connue sous le nom de Expo 58. Qu'avez-vous ressenti en visitant l'Expo ? Aujourd'hui, nous écoutons l'histoire de Marcel Kocken, pour qui l'exposition universelle a laissé un souvenir impérissable.
Je suis Marcel Kocken, je suis né en 1935 à Malines, où je vis toujours. Pour moi, l'Expo 58 était et est encore la plus belle expérience que j'ai vécue dans ma vie. Impressionnant, je l'ai déjà dit, impressionnant. Et j'étais aussi enthousiaste à propos de l'Expo. Dès que j'en ai entendu parler ou que je l'ai lu dans le journal, j'ai été enthousiasmé et j'ai écrit des lettres au secrétariat de l'Expo. Lettres dans lesquelles j'ai écrit que je le trouvais cela formidable et que j'aimerais participer dans la mesure où je le pouvais, parce que c'était 2 ou 3 ans avant 1958. J'étais encore mineur à l'époque de toute façon. Et cela m'a conduit à un moment donné, je ne sais plus comment, j'ai reçu un message m'informant que je pouvais m'inscrire en tant qu'interprète volontaire. Je l'ai fait, je crois que j'ai dû passer un test pour ça, je ne m'en souviens pas. On m'a remis une carte, une sorte de passeport que j'ai toujours avec moi, sur laquelle il était écrit que j'étais interprète volontaire avec un tampon de l'Expo 58. À Malines, les gens avaient mis un autre cachet et j'étais traducteur bénévole allemand et anglais. Le français n'était pas considéré comme une langue étrangère à l'époque. En Belgique, tout le monde parlait d'office le français. Et le néerlandais, j'ai visité l'Expo 12 fois, une journée entière à chaque fois. J'y suis allé 2 fois, en train et 10 fois à vélo, comme je l'ai déjà dit. Pour moi, c'était pareil de venir en train, en tram ou à vélo, cela prenait le même temps. L'Expo était à 23-24 kilomètres de Malines. C'est une heure de vélo. En train, je devais d'abord me rendre à la gare et prendre un train pour Bruxelles et un tram pour l'Expo. Aussi vite, ou peut-être plus vite à vélo, de Malines à Expo, j'ai traversé Vilvoorde. À l'église de Vilvoorde, j'ai tourné à droite, de l'autre côté du canal. Et puis, il y avait une chaussée que tout le monde appelait la chaussée romaine. Apparemment, il s'agit d'un élément de la route romaine en pierre. Et puis, je suis arrivé ici, sur le côté de l'Expo, et il y avait un grand parc à vélos où je devais payer, je crois, 5 francs. Ce n'était pas cher. Pour ma part, j'avais alors 22 ans. Pour moi, c'est 24 kilomètres. Ce n'était pas grand-chose. Ce n'est que le soir que la situation était difficile. J'aurais alors marché toute la journée et parcouru 24 kilomètres. Mais j'étais jeune et on en riait. Et puis, il y a eu l'entrée et avec ma carte de traducteur bénévole, j'ai bénéficié d'une réduction de 50% sur le prix d'entrée. au lieu de 40 francs, j'en ai payé 20. C'était une bonne chose pour moi de pouvoir y entrer pour si peu.
Marcel s'est rendu à vélo de Malines à Bruxelles pour visiter l'expo. Une fois arrivé dans la capitale, il y avait un bouillonnement d'activité. On pouvait se mêler à la foule et l'énergie des millions de visiteurs venus du monde entier était palpable. Il y avait de l'électricité dans l'air et un soupçon d'optimisme gagnait tout le monde. Cela a également eu un impact énorme sur Marcel, qui se souvient de cette première visite comme si c'était hier.
La première fois que j'ai visité l'expo, j'ai été littéralement bouche bée. C'était la première fois que je vivais un événement aussi important. En plus, j'ai été submergé par l'ampleur, ce qu'il y avait à voir et le nombre de personnes qui se promenaient, et aussi de tout l'aménagement. Je me souviens encore de ces fontaines. Ces fontaines, je ne sais pas, je n'en ai pas d'image. On ne peut les voir que sur film. Mais ces fontaines, j'ai aimé m'asseoir là pour les regarder. Et puis ces gens, on n'était pas écrasés, mais on était submergés par l'atmosphère qui régnait. Je n'ai jamais retrouvé cette atmosphère ailleurs. Je ne suis jamais allé en Allemagne, car quand on parle de grandes choses, j'ai visité le Wurstmarkt à Bad Dürkheim, c'est autre chose, mais c'est plus forain. Mais ici, bon, c'était beaucoup plus universel. Un pays avait une spécialité culinaire, l'autre pays avait autre chose. Et vous pourrez ensuite aller manger des frites un peu plus loin. Vous aviez donc le choix. On pouvait vivre quelque chose partout. Il y avait aussi quelque chose à voir partout dans ces pays. Il y avait quelque chose à voir partout. Je résume l'expo en un mot, universel. J'ai connu beaucoup de gens qui ont visité l'expo. Il y avait même un soldat anglais, il était caporal, un volontaire pendant la guerre, mais après la libération. J'avais accosté un soldat, c'était la mode en septembre 1944. J'avais donné à un soldat mon nom, un bout de papier, avec mon nom, mon adresse. Et ensuite, pas de souvenir, s'il vous plaît. Ensuite, j'ai reçu une pièce de monnaie ou un bouton de soldat. Mais cet homme est venu chez moi avec ce bout de papier, mais nous avions été bombardés par la guerre et nous habitions avec une tente à l'étage. Et il arrive chez cette tente en bas, qui avait un sac, cet homme, Wallace Seaford de Londres, qui est accueilli comme un prince, un libérateur, je ne sais pas quelle langue, mais il est accueilli là. L'homme parlait couramment l'allemand et le français. Il n'y avait donc pas de problème, car tous les Flamands parlent allemand. Mais bon, il a été stationné à Malines pendant 3 mois. Il venait passer sa soirée tous les soirs. Lors de l'exposition de 1958, il est reparti, mais pas à Malines, mais à Bruxelles, avec sa sœur. C'était un jeune homme. L'expo, bon, j'ai la photo ici, avec l'expo en arrière-plan. Il est venu voir l'expo. J'ai mentionné mes amis allemands qui sont venus voir. Je les avais invités. Et puis, j'ai ici, mes parents, non. Ma mère était physiquement mal en point, à peine capable de marcher, mais mon frère et sa femme sont également venus. Ici, très souvent, mon frère était marié. Ce qu'il faisait, ce n'était pas mon affaire. Mais je sais qu'il est également venu ici souvent et il y a aussi fait des films. Et j'avais acheté un appareil photo, un Kodak Retina 2. Je ne l'ai plus entre-temps, avec une bobine de 36 poses. Plus tard, j'ai appris à les imprimer moi-même, etc. Mais je l'avais acheté spécialement pour pouvoir prendre des photos à l'expo. Et c'est ce que j'ai fait, bien sûr. Et de mon cercle d'amis, je suppose, ceux que j'ai rencontrés au travail, qui étaient des pères à peu près, ou un peu plus jeunes, un peu plus âgés, tous avaient également participé à l'expo. Les gens qui n'y sont pas allés sont celles qui avaient des problèmes physiques ou qui vivaient dans un endroit un peu à l'écart de la société. Mais tous ceux qui étaient partants sont venus à l'expo, ne fût-ce qu'une seule fois.
L'Expo 58 a été la première grande exposition universelle de l'après-guerre. Elle a marqué la renaissance radieuse de l'Europe et a annoncé une nouvelle ère, une époque où les progrès technologiques allaient de pair avec une prospérité florissante. Plus de 40 pays veulent se mettre en valeur sur la scène mondiale en se présentant avec des pavillons éblouissants et en essayant de se surpasser les uns les autres avec des structures spectaculaires et des inventions révolutionnaires. Au milieu de toutes ces merveilles, Marcel marchait les yeux brillants d'étonnement à chaque pas. Mais malgré tous ces grands pavillons impressionnants, c'est une structure plus modeste qui lui a laissé une impression indélébile et qui continue à l'inspirer aujourd'hui encore.
Ce sont des pavillons que je devais voir. Je vais citer les grands, c'était l'Amérique, les États-Unis. Il y avait le pavillon de la Russie. Pourquoi la Russie ? Bah, pas pour les boîtes à fin de caviar que l'on peut y acheter. Mais il y avait Spoutnik, une copie. Je la vois encore devant mes yeux, grande sur une estrade, de sorte qu'on pouvait regarder en dessous, en métal brillant. J'ai aussi allé et je suis resté bouche bée. Et puis il y avait le pavillon, comme il n'y en a que quelques-uns, ce que j'ai fait en faire, car je regardais tout attentivement. Je regardais tout attentivement. C'était le pavillon d'Israël. Ce n'était pas un grand pavillon. Et vous direz, Israël, eh bien, il y avait quelque chose d'exposé que je voulais voir, que je devais voir, que je ne pouvais pas éviter. Il s'agit des manuscrits de la Mer Morte avec les textes des Esséniens, etc. J'ai lu beaucoup de choses à ce sujet par la suite, mais je suis resté là pendant des heures à regarder sans en comprendre un mot. Je ne pouvais pas lire ce scénario, je ne pouvais pas comprendre cette langue. Mais je savais qu'ils étaient pré-chrétiens. C'était dès le début de la foi juive et la foi chrétienne. Et je suis resté là, à regarder pendant des heures, en essayant de trouver quelque chose de tout cela, de comprendre de quoi il s'agissait. Mais j'ai été touché par l'âge de ces écrits, qui ont été écrits par des gens qui vivaient il y a plus de 2000 ans, avec une idée abstraite. Pas n'importe quelle idée, une idée abstraite sur Dieu et tout ce qui va avec. Et je suis resté là, je le dis, trois fois à regarder, comme quelqu'un qui regarde quelque chose avec étonnement. Et puis j'ai commencé à regarder autre chose. Qui est resté gravé dans ma mémoire. Il s'agit de la flèche de génie civil qui a malheureusement été démolie. Cette flèche qui est restée suspendue, je ne sais pas, à 50 ou 60 mètres au-dessus de l'expo et qui n'avait en fait aucun soutien, qui devrait donc rester debout grâce au contrepoids. Alors, très ingénieux, très abstrait à la fois. Je pensais que c'était formidable.
En 1958, le monde entier s'est réduit à un village de la plaine du Hesel. À l'Expo 58, les cultures et les continents se sont croisés et vous avez rencontré des gens qui venaient de l'autre côté du monde. Vous avez goûté des plats dont vous ne soupçonniez pas l'existence et vous êtes tombé à la renverse devant toutes les nouveautés que vous avez vues. Chaque pavillon a révélé de nouvelles surprises, vous laissant émerveillé et ravi à chaque pas. La visite de l'exposition universelle était donc pour beaucoup l'occasion idéale de découvrir le monde entier en quelques heures.
Je n'y suis jamais allé un week-end non plus. J'ai toujours travaillé un jour par semaine. Parce que là où je travaillais, il y avait du travail le week-end. Le samedi et le dimanche, on travaillait, mais pas le lundi. Alors, je venais d'habitude le lundi, j'avais beaucoup plus de place, surtout le matin. Des souvenirs, ce que j'ai gardé. J'ai beaucoup gardé. C'est pourquoi j'ai toujours porté un sac. Partout où il y avait des dépliants, je les prenais. Tout a été jeté, c'est dommage. Ah, je ne les ai pas gardés, c'était une telle pile. Mon Dieu, qu'est-ce qu'on en fait? C'est malheureusement tout disparu au fil des années. Mais j'ai emporté des dépliants partout, que je regardais ensuite tous chez moi. J'ai trouvé cela très libérateur de rencontrer tous ces gens. Dans ces stands, je demandais toujours quelque chose à quelqu'un. Et puis s'il y avait des gens qui parlaient une autre langue et qui ont ensuite fait l'effort de me répondre en néerlandais ou en français. Je ne peux pas très bien l'expliquer, mais j'étais là peut-être grossier à dire, mais je n'étais plus là en Belgique. Je n'étais pas là en Belgique. J'étais là dans dans le monde entier, en fait. Vous me posez la question de l'expo, là? Je l'ai déjà dit, pour moi, c'était quelque chose d'universel. Pour moi, le monde s'est ouvert là. Ce n'est pas que je ne connaissais pas le monde, mais le monde se découvrait à vélo. Avec mon vélo, je suis allé à Anvers, à Bruxelles et à Louvain, mais c'est en fait une découverte que j'ai faite. Tous les continents sont là, avec des gens habillés dans leurs costumes. On pouvait y manger toute cette nourriture. Ce que je n'ai pas fait, je dois l'admettre. Mais j'étais aussi convaincu que ce sont des anecdotes, que cette nourriture ne convient pas. Mais quand je voyageais quelque part à l'époque, je le faisais dans le cadre de mon travail, si je devais parfois me rendre aux Pays-Bas ou en Allemagne, j'avais toujours un paquet de dépliants de l'exposition universelle. Un paquet entier, attaché avec une ficelle à ma valise. Je me souviens bien, je me rendais en Allemagne, à Hanovre, à Stockholm, et j'avais un paquet de tracts dans ma valise et des coutumes allemandes, ou belges en tout cas. Une douane voulait savoir ce qu'il y avait dedans et de voir, j'ai dû l'ouvrir. Et puis, l'exposition universelle. Et c'était bon, je pouvais se passer. Mais je le répète, pour moi, cette exposition universelle était, si cela devait se reproduire demain. Je suis un vieil homme. Mais je crois que je suis venu ici à genoux. C'est un peu brutal et un peu exagéré, mais je veillerai tout de même à trouver quelqu'un qui me ramènerait ici et aussi chez moi.
Ce goût du monde, on peut littéralement le prendre au pied de la lettre. Nous, les Belges, sommes des bourguignons. Nos principales exportations ne sont pas la bière, les frites et le chocolat pour rien. Alors la nourriture ne pouvait pas manquer à l'exposition 58 non plus. Chaque pavillon a fait le plein de spécialités locales et leur menu était rempli de classiques de l'époque. Attendez-vous donc à un coq au vin dans le pavillon français, à des spaghettis bolognaises dans le pavillon italien et à un cocktail de crevettes ou de moules dans le restaurant belge. Mais des entreprises telles que Planta, Maritima et Germinal ont également présenté leurs dernières nouveautés. Il y en avait donc pour tous les goûts.
Et puis, il y avait les restaurants. C'était important car je n'apportais jamais de sandwich, parce que c'était de la traîne et beaucoup de misère. Mais j'avais l'habitude d'aller manger dans un de ces grands stands où j'étais pressé. Il y avait ensuite un stand de conserve, de Marie Thumas et de Germinal. Il s'agissait de grandes salles où l'on mangeait un plat froid pour, je crois, 80 ou 90 francs. 80 francs, je le sais, c'est sûr. Puis je suis allé dîner, une fois à Germinal, et puis en stand de ce que j'étais pressé, et puis de Marie Thumas. Parce que c'est la chose la plus chère que l'on puisse avoir à l'expo, il faut le savoir, c'était manger et boire. C'était très cher. Et puis, il restait du bon marché, ou du moins cher. C'était donc dans ces stands, et c'était de la nourriture froide, des plats froids avec du pain. C'est une bonne base solide sur laquelle nous pourrons continuer à travailler pendant le reste de la journée.
Des gadgets technologiques, comme le premier ordinateur, côtoient des chefs-d'œuvre architecturaux, comme le pavillon du génie civil qui semble flotter dans le ciel bruxellois. Les gens n'en croient pas leurs yeux, un bâtiment flottant. Et ce n'est rien en comparaison de ce qui nous attend. En effet, les gens se tournent vers quelque chose de nouveau, les voyages dans l'espace. Marcel en est très impressionné.
Ce qui m'a le plus impressionné quand j'étais jeune, j'avais 20 ans à l'époque, au début de la vingtaine, c'était la conquête spatiale. Je pense que c'était le cas pour tout le monde. Je me souviens, le premier Sputnik qui a fait bip, 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 nous l'avons écouté à la radio, c'est certain. Et puis, le premier être vivant, la chienne Laika, je me souviens de ce nom, Laika. Et puis Glenn, le premier homme dans l'espace, qui n'a fait qu'une brève apparition, qui n'a pas eu le temps d'aller dans l'espace, mais qui a atteint la limite de l'atmosphère et qui a ensuite atterri. C'était des sensations. Je travaillais dans une entreprise privée avec quelques autres personnes. Bien que je sois le plus jeune, les autres n'étaient pas beaucoup plus âgés que moi. Et on en discutait quand même. Un homme avait été envoyé dans l'espace et était revenu vivant. Dans mon enfance, j'avais environ 10 ans.
Télévision couleur, aluminium, satellite, autant de nouvelles technologies présentées au grand public lors de l'exposition universelle. Mais l'Expo 58, c'est bien plus que cela. C'est aussi une grande fête avec des spectacles, des expositions et des soirées dansantes. Pour Marcel, ce fut le meilleur moment de sa vie.
Les spectacles sur cette place, l'Esplanade, je crois qu'elle s'appelait, où chaque association qui a fait quelque chose en Belgique a fait une performance là-bas. Et il y avait des fanfares, des orchestres de cuivre, des harmonies. Et je crois que j'en ai aussi une photo, un corps de l'armée américaine qui jouait des marches américaines avec une fantaisie de drill. Les personnes qui ont été soldats savent ce que cela signifie. Lancer des instruments en l'air et ainsi de suite. C'est aussi un spectacle très impressionnant. Et qu'est-ce qui m'a encore fasciné? Je n'y suis allé qu'une seule fois, car mes finances ne me le permettaient pas, Vrolijk ou Oudbelgen. J'y étais le dernier soir de l'exposition, en octobre. Je suis venu en train à ce moment-là. C'est l'une des deux fois où je suis venu en train parce que c'était un jour brumeux, il ne faisait pas beau temps. Et je suis entré là-dedans, quand il dit « noir de monde ». On y voyait plutôt du gris à cause des gens. car tout le monde ne portait pas de noir. Je suis venu dans tous ces peuples, il y en avait 9. Je ne suis pas entré, et si vous étiez entré, vous n'en seriez pas ressorti. Il y avait de la musique partout, on dansait, on applaudissait. J'y ai bavardé et dansé avec Dieu et le petit Pierre. À un moment donné, j'avais un garçon wallon avec moi qui était aussi seul. Nous sommes allés de deux en deux, puis d'un endroit à l'autre, jusqu'à ce que le drame se produise. Je l'obtiens en dansant, ou de la danse, on ne peut pas appeler ça comme ça. Mais c'était du sautillement. C'était exactement les supporters de football qui étaient ravis. Une femme à talons hauts me frappe la jambe, avec une plaque de fer en dessous. Les premières minutes se sont déroulées sans encombre, mais le reste, j'étais en train de me préparer. J'étais déjà fini de sauter et de danser. Et j'avais un sac avec moi, un vieux sac de livres, et à l'intérieur, un Macintosh. Et vous pouvez le croire ou non, chers amis, je l'ai mis sous le banc, dans un bar en entrant content, les Belges. Et il est resté là tout seul pendant des heures. Je suis parti convenablement, c'était fini, vers 4 heures du matin. Le sac à dos contenant mon ordinateur était toujours là. C'était aussi l'Expo 558. C'est ainsi que je suis rentré à Malines par le premier train ou quelque chose du genre. Et c'était la fin de l'Expo, mais pour moi, ce n'était pas la fin, parce que je suis passé par là avec des correspondants. C'était une Allemande avec qui je correspondais. C'est une histoire personnelle. Vous savez peut-être toutes, ce n'est pas un secret. Elle a été autorisée à venir en Belgique. Mais elle devait être accompagnée d'un ami parce que ma mère n'avait pas confiance en cela. Une jeune fille de 18 ans à l'Expo, il y a plein d'inconnus. Que va-t-il se passer? En conséquence, j'ai été épouser cette amie et elle est là. Grâce à l'Expo 58, je voulais le dire quand même. Expo 58, je n'ai pas acheté beaucoup de souvenirs, je n'ai pas acheté d'atomium, j'ai mon souvenir chez moi jour et nuit.
Les pavillons majestueux, les promenades imposantes et les hôtesses coquettes étaient déjà impressionnants, mais ce n'était rien face à la star de l'Expo, l'atomium. Il suffisait de lever les yeux pour les voir, 9 sphères scintillantes qui semblaient flotter dans le ciel clair. L'atomium a été construit comme pavillon principal et attraction de l'exposition universelle de 1958 à Bruxelles. Il doit sa forme à l'imagination de l'ingénieur belge André Waterkind. Il a en effet observé que les atomes de fer dans la nature s'organisent en une structure cubique régulière. C'est ainsi qu'il a eu l'idée d'agrandir 165 milliards de fois un cristal de fer élémentaire composé de 9 atomes de fer et de donner à l'atomium sa forme unique. Ce bâtiment spectaculaire annonce une nouvelle ère, l'ère atomique. Dans les années 1950, le bâtiment était avant tout un symbole de prospérité et de progrès. Mais les Belges ont rapidement adopté ce bâtiment unique et l'atomium est devenu le symbole national de la Belgique. Aujourd'hui, il reste l'une des structures les plus surprenantes, les plus créatives et les plus étonnantes au monde, attirant plus de 600 000 visiteurs par an. Pourtant, en 1958, l'atomium n'était pas le lieu de prédilection de tout le monde.
Je ne suis jamais allé à l'atomium. C'était de la file d'attente, c'était du temps perdu. En plus, cela a coûté, je crois, 40 ou 50 francs. C'était beaucoup trop. Je n'ai jamais non plus conduit ces petites motos. Je pourrais faire tout cela avec mon pied. J'avais 22 ans. Le monde est à vos pieds, au sens propre comme au sens figuré. et je suis sorti. Ensuite, il y a eu des files d'attente partout. Il y avait des files d'attente à l'entrée, mais aussi dans certains stands, tout le monde voulait entrer. C'était la file d'attente. Je détestais passionnément les files d'attente. C'est pourquoi, la première fois que je suis allé au pavillon israélien, je n'ai pas eu à faire la queue. Je n'ai malheureusement pas vu certains stands. J'en ai vu d'autres à plusieurs reprises.
L'Atomium est un souvenir durable de l'Expo 58. La plupart des pavillons ont été démolis après l'exposition universelle, réaffectés ou déplacés. Néanmoins, l'exposition universelle a inspiré toute une génération. Elle a également eu un impact durable sur Marcel.
L'Expo 58 m'a, je l'ai déjà dit, j'avais 22 ans, aussi faire croire à l'Europe. Lorsque la CECA, la Communauté européenne du charbon et de l'acier, a été mise en place, il y avait aussi quelqu'un que je connaissais bien qui y occupait un emploi subalterne, ou que je connaissais vraiment bien. Il s'agit de Jeff Raymakers, qui deviendra plus tard maire de la ville et qui a été ministre entre-temps. Il a commencé sa carrière à la CSA. C'est alors que l'Europe est née, et je suis toujours un fervent partisan de l'Europe unie, car quand on regarde l'histoire, je suis un historien avec un dada, je regarde comment c'était avant. Nous venons de l'Europe unie. Nous aimons tant parler de Charlemagne, pas l'empereur Charles, hein? Charlemagne vers l'an 800, c'était l'Europe unie, n'est-ce pas? Il était le maître de tout en France, en Allemagne, au Benelux, en Italie. L'ensemble de ce que nous appelons aujourd'hui l'Europe unie était l'empire de Charlemagne. Il a donc existé. Plus tard, d'autres s'y essaieront. Charles Quint s'y est également essayé, empereur du Saint-Empire romain, puis de l'Espagne, et ainsi de suite. Et puis, il y aura ceux qui tenteront de le faire par la force, mais c'est une autre histoire. Mais nous, nos racines, lointaines bien sûr, se trouvent quelque part dans un pays uni. Plus on remonte dans le temps, plus on a de choses en commun. On arrive alors aux Néandertaliens. Et il s'avère que nous, en Europe occidentale, nous avons tous 2% de gènes de Néandertaliens. Comment cela se passe-t-il? Cela signifie qu'ils se sont également reproduits ici. Ce sont des choses. Puis, lorsque vous arrivez à l'expo et que vous voyez tous ces gens travailler ensemble, le pavillon russe et ici le pavillon américain face à face, 50 mètres entre eux, et là, le pavillon de l'Allemagne. Plus d'ennemis. Un très beau pavillon. En tant que jeune, je me sentais très bien dans cette situation. Très bien.
Merci d'avoir écouté cet épisode. Vous voulez plus d'histoire? Alors n'oubliez pas d'écouter les autres podcasts et plongez-vous dans le monde de l'Expo 58. Vous ne vous lassez pas de l'Atomium ou de l'exposition universelle? Surfez sur atomium.be pour toutes les informations ou visitez l'exposition permanente sur l'Expo 58 dans les sphères de notre monument national.